Bon, ben, bonjour à tous. Peut-être que vous aurez des questions à Hélène après. Hein. Hélène, tu pars pas. Hein. Donc, en fait, moi, je suis sage-femme, comme Joël disait, au CHU à Montpellier depuis très longtemps. J'ai un poste de coordination autour de la prise en charge des femmes enceintes avec des addictions depuis 1997. Je suis issue du secteur associatif puisque j'ai un passé à aide et à réduire les risques, puisque je suis cofondatrice de Réduire les risques. Donc j'ai commencé au début de la réduction des risques dans les années 90, même avant le début de la réduction des risques. Et puis, donc au CHU à Montpellier, je partage le poste avec une collègue qui s'appelle Amélia Sergi. On est toutes les deux à mi-temps à la Mater. Et on fait la coordination de la prise en charge des femmes enceintes avec des addictions. Et on associe aussi des patientes avec des traitements psychiatriques qui sont aussi enceintes. Voilà, moi je suis rattachée sur le plan administratif à l'ELSA, à l'équipe de liaison en addicto. Après, je suis détachée au réseau périnatalité Occitanie depuis pas mal de temps aussi. Et on a pas mal d'outils sur le réseau périnatal. Je vous ai mis un petit QR code sur la fin du diaporama avec des fiches techniques et des référentiels sur la thématique périnatalité et addiction. Où là, du coup, moi, j'ai une action régionale sur toute la région. Et depuis 3 ans, grâce à Hélène, je fais des consultations santé de la femme à l'UTTD. Donc je vois les patientes, les femmes qui n'ont pas de suivi gynéco, qui sont suivies à l'UTTD, celles qui sont hospitalisées en addictologie et aussi par extension celles qui sont hospitalisées en psychiatrie parce que c'est des femmes qui ont très peu de suivi gynéco et pour qui c'est compliqué. Après, j'ai encore une autre casquette, je suis présidente du GEGA, du groupe d'études grossesse et addiction. C'est une petite association nationale qui désisole les professionnels qui s'intéressent à la problématique périnatalité et addiction. Donc on a pas mal de sessions en visio et je suis coordinatrice du diplomataire universitaire périnatalité et addiction. Aussi, je fais la pub aussi quand même pour ça, Montpellier-Paris, avec Paris-Saclay, donc Paul Brousse. Voilà, donc là on m'a demandé de faire une intervention axée sur le côté périnatalité, addiction et sans-abri. C'est pas... Donc je suis très contente d'avoir un public aussi social, donc j'ai essayé de ne pas mettre trop de gros mots dans mon diaporama. On m'a demandé de présenter une situation clinique, donc je vais faire aussi... il y aura une situation clinique. Et je ne vais pas vous faire un étalage sur les effets des produits sur la grossesse parce que ça me prendrait déjà au moins 1h30 et que j'ai normalement 50 minutes avec la discussion. Voilà. Donc, alors, addiction en périnatalité, c'est... Alors, pour les professionnels de périnat, addiction, c'est un produit, en fait. Donc c'est un peu, il y a des petites erreurs. Donc les effets directs des produits, il y a des effets directs, il y a des effets indirects, et il y a aussi des effets environnementaux quand on parle d'addiction en périnatalité. Quand on a des femmes qui consomment et qu'on fait des études de cohorte, qu'on voit comment vont les enfants après, il y a plein de facteurs qui sont associés. Donc il faut arriver à les serrer parce que c'est là-dessus qu'on a des actions tous en travaillant ensemble. Donc il y a l'histoire du produit. Alors, je me suis quand même mis un petit truc sur les hommes parce que quand même, il y a des spermatozoïdes et que les spermatozoïdes, ils ne sont pas innocents dans l'histoire. Parce que, en fait, tout ce qui touche les consommations du père pendant la formation des spermatozoïdes, qui se renouvellent quand même régulièrement, donc dans les 3 mois, peuvent avoir une action sur la trajectoire de l'enfant, peut avoir une action sur ce qui va se passer dans la grossesse, par effet épigénétique, hein, par modification des gènes. Donc ça, c'est important et il y a de plus en plus de publications sur ce thème-là. Après, quand il y a au premier trimestre de grossesse, les 3 premiers mois, là, on va réfléchir, est-ce qu'il y a un risque sur la construction du placenta? C'est le moment où le placenta il va se construire, c'est lui qui va alimenter le bébé, qui va l'alimenter en nutriments et en oxygène. Et puis, est-ce qu'il y a un risque de malformation? Là, c'est les questions qu'on va se poser. Après, dans la suite de la grossesse, le bébé, il est formé, mais il y a tous les organes qui vont commencer à se mettre en place et à finir de se construire. Et là, est-ce qu'il va y avoir une action sur ces organes? Est-ce qu'il va y avoir une action de cette substance sur les neurones? Et puis, il y a des produits qui ont des problèmes, qui ont des actions vasculaires, qui vont couper l'arrivée du sang, genre la cocaïne. Du coup, c'est ça qui va avoir un effet sur le bébé. Tout ça, c'est aussi fonction du type de substance, de la quantité, de la fréquence. Ça, c'est le côté substance. Après, il y a aussi tout ce qui va se passer pendant la grossesse, des effets indirects de l'addiction. Est-ce que cette personne a un trouble de l'usage? Est-ce que cette personne a une addiction qui va entraîner ou qui peut être aussi le résultat d'un contexte de vie? Donc, il y a tout ce qui est stress extrême, hein. Toutes les conditions de vie, violence, précarité, tout ça en fait, ça majore le stress pendant la grossesse et ça fait un stress qui est pathologique. C'est normal d'être stressé, hein, c'est de la défense. Mais quand c'est pathologique, ça fait monter beaucoup le cortisol et le cortisol, c'est une hormone qui n'est pas bonne pour le développement du bébé. Tout ce qui est l'accouchement à problème, là j'ai enlevé le gros mot de... qu'on met nous le côté médical. Quand il y a un accouchement, un problème, quand il manque d'oxygène pendant l'accouchement, ça va aussi agir sur le devenir de l'enfant. Quand il y a une prématurité, en médecine, quand il y a une prématurité, ça crée une fragilité, une vulnérabilité sur l'enfant. Et quand il y a un contexte de troubles de l'usage, avec des addictions, avec un contexte compliqué, ça va aussi donner des difficultés sur l'enfant, sur son développement. Et donc, en médecine, les risques se multiplient. Du coup, la prématurité, ça va encore aggraver. Un enfant prématuré, s'il est dans un contexte de vie compliqué, il va avoir un développement qui va être moins bon pour diverses raisons, notamment pour des difficultés d'accès aux soins. Et là, quand on a simplement une absence de suivi de grossesse, les gens qui travaillent en précarité le savent, on a plus de petits bébés, plus d'accouchements prématurés, simplement avec l'absence de suivi. Bon, ça, c'est un petit peu pour élargir le contexte pendant la grossesse, mais il y a aussi un contexte postnatal, et celui-là, il est encore plus important. Plus important parce que c'est cette trajectoire sur la toute petite enfance, tout ce qui va se passer va être capital. Alors, la première séparation mère-enfant. Alors, on est séparé de son enfant quand l'enfant est prématuré, parce qu'il va être en pédiatrie, on peut être séparé parce qu'il a un problème de santé, on peut aussi être séparé parce qu'il y a un placement. Il y a plein de raisons. Et tout ça, ça va influer sur sa trajectoire. Les troubles de la relation, mère-enfant, père-enfant, tout ce qui est autour du style de vie, tout ce qui est donc environnement de l'enfant, sécure, réponse adaptée, donc par exemple les pathologies psychiatriques décompensées. Donc, quand on a des personnes qui sont en situation de fragilité avec des addictions et qui ont un enfant, il y a beaucoup de refus d'aide. Le fait de refuser les aides, de refuser la PMI, c'est aussi une majoration de ce qui va se passer pour l'enfant. Et ça, c'est compliqué et c'est là aussi où on a besoin de tout le monde. C'est quand on a... manque de confiance en soi, c'est pas facile de penser que son enfant peut avoir une difficulté. Donc souvent, il y a un retard aussi au suivi de l'enfant et un retard au besoin d'accompagnement de cet enfant en termes de kiné, psychomote, etc. C'est pour ça que les prématurés vont un peu moins bien quand ils sont dans ce contexte-là au départ. Alors sur addiction pendant la grossesse, en gros, de toute façon, chaque fois que vous allez retrouver des addictions, que vous allez retrouver de la précarité, que vous allez retrouver des facteurs de stress, des violences, etc., on vous retrouve toujours une majoration des fausses couches. Souvent, bon, majoration des fausses couches, mais ça arrive, c'est tellement fréquent les fausses couches, mais c'est quand même difficile à vivre pour soi quand c'est soi. Après, il y a des bébés plus petits, j'ai laissé retard de croissance intra-utérin, il y a des bébés plus petits et plus d'accouchements prématurés. Et ça, on va le retrouver pour toutes les consommations, y compris pour le tabac. Le risque malformatif, la malformation, c'est surtout avec l'alcool. C'est un peu avec la cocaïne, un peu avec les amphétamines, mais c'est vraiment très très faible. C'est surtout l'alcool. Après, l'hématome rétroplacentaire, ça veut dire que le placenta peut se décoller. Alors ça, c'est l'accident grave. Ça arrive plus fréquemment avec le tabac et la cocaïne. parce que ça donne des problèmes vasculaires et ça peut décoller le placenta. Si le placenta se décolle avec le bébé dans le ventre, le bébé, il faut qu'il naisse tout de suite, dans les 10 minutes. Ensuite, le hypoxie néonatale, c'est défaut d'oxygénation autour de la naissance. Donc ça fait partie, ce que je vous avais mis tout à l'heure, des effets indirects. Et donc il y a plus de décès en périnatalité, plus de décès pendant la grossesse, plus de décès tout de suite après la naissance, quand il y a des problématiques addictives. Qu'est-ce que ça va faire après sur le devenir des enfants? Donc on a des enfants avec plus d'asthme, plus de maladies cardiovasculaires, ça c'est beaucoup moins connu quand même, les enfants, le devenir des enfants quand il y a du tabac pendant la grossesse, il y a plus de difficultés de maladies non transmissibles dans sa trajectoire, c'est très confondu avec le facteur précarité. Plus d'hyperactivité, troubles de l'attention, mémorisation. Donc là, je vous ai plutôt mis ça comme ça pour avoir... Enfin, il y a plusieurs produits, il y a rarement une seule conso. Il y a aussi des études qui montrent une augmentation du trouble du spectre autistique, notamment quand il y a des consommations de cannabis ou des consommations d'alcool pendant la grossesse. Et le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Alors, on parle de moins en moins de SAF, de syndrome d'alcoolisation fœtale, mais de plus en plus de troubles du spectre, parce que c'est un ensemble de signes. Et les signes les plus importants, ce n'est pas la malformation. Les signes les plus importants, il y a plus de retard mental, mais il y a quand même la moitié des enfants qui ont un QI qui est supérieur à 70. Mais c'est surtout que ça va de l'alcool pendant la grossesse, ça va donner, ça peut donner des difficultés vie entière chez l'enfant. Et dans le public qu'on rencontre, on a nombre de personnes qui ont elles-mêmes été alcoolisées in utero. Donc Hélène parlait du retard de suivi en gynéco. Il y a à peu près 30% des grossesses qui sont non prévues pour tout le monde. Il y a des femmes qui vont choisir de faire une IVG, d'autres non. Mais donc beaucoup de grossesses arrivent comme ça. Et donc les consommations d'alcool, notamment importantes, et fréquentes, les binges, c'est compliqué. Et donc, il peut y avoir donc, plus de ce qu'on appelle le syndrome dysexécutif. C'est très, 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 très fréquent quand il y a une exposition prénatale à l'alcool. Et ça, donc, ça va donner plus de difficultés à s'organiser dans la vie. Plus de retard au rendez-vous, ça vous dit quelque chose? Plus de difficultés à planifier les tâches. On a très, très envie de faire un truc, mais alors c'est très compliqué d'y arriver. Et le traitement de ce qu'on sait faire est difficile aussi. Il y a des troubles comportementaux. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est juste parce que leur cerveau a été lésé et donc c'est trop difficile à mettre en place. Il y a des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, il y a une majoration des troubles psychiatriques, il y a une hypersensibilité, difficulté à rester assis sur une chaise parce que pourquoi est-ce qu'on a mis plein d'aiguilles sur cette chaise ? Donc les enfants, ils ont du mal à tenir à l'école assis, donc ils ne peuvent pas se concentrer sur l'apprentissage. On retrouve plus de troubles du sommeil, plus de difficultés à comprendre les règles sociales, plus de difficultés à s'intégrer dans la vie sociale. Bon, ça va? Vous voulez me poser des questions?
Hein? Si... Oui, moi aussi, ce que j'étais en train de me dire.
Quoi? Et on considère qu'il y a quand même une personne sur 100 qui a été alcoolisée in utero, mais après, on peut aussi très bien s'en sortir. Ça dépend des quantités, ça dépend des cofacteurs, et ça va dépendre aussi de comment on a été entouré, accompagné pendant toute sa petite enfance. Alors... périnatalité, addiction et sans-abri, c'était le thème du sujet. Quel regard des professionnels? Alors là, ça devient compliqué. Donc, elle n'a pas de logement, elle se défonce, elle veut un enfant. Pourquoi elle ne fait pas une IVG? Consommation égale danger. Conso égale danger. Conso égale addiction. Tout est mélangé. Pour les professionnels de périnatalité en particulier, c'est ceux que je fréquente le plus, mais pas pour tout le monde. Par contre, il y a aussi, c'est quelque chose qui peut aussi sidérer les professionnels et se dire, de toute façon, dans un contexte comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il y a beaucoup de jugements, beaucoup de regards, et il y a aussi beaucoup d'impuissance. Donc, c'est pour pouvoir s'occuper des personnes qui sont en difficulté, à la fois grande précarité, plus addiction, plus enceinte, il va falloir s'occuper de la patiente, mais il faut aussi s'occuper des professionnels. Parce qu'il faut redonner de l'espoir à tout le monde. Les femmes qui ont des addictions, elles, en face, ben, elles ont peur des professionnels, parce qu'elles ont peur du jugement. Et elles ont souvent elles-mêmes un regard négatif sur elles. Et donc, elles pensent que ce n'est pas possible qu'on puisse reposer un regard positif sur leur projet. Donc, elles vont plutôt avoir tendance à ne pas en parler facilement. Elles ont peur du placement de l'enfant. Alors, le jugement, le placement, et donc elles vont refuser les aides parce qu'elles ont peur du placement. Or, seules les aides pourraient aider à éviter le placement, aider à ce que la trajectoire de l'enfant soit positive. Elles ont peur des examens gynéco. Il y a une surreprésentation des violences vécues. Moi, je fais les consultations de santé de la femme. Alors, je vois des femmes, j'ai un biais, hein, je vois des femmes qui n'ont pas de suivi gynéco. Je suis sur presque 100% d'antécédents de violence. Violence dans l'enfance, violence dans l'adolescence, violence dans la vie d'adulte. Et des fois, les violences passées ont été tellement fortes que la violence actuelle, elles ne peuvent même pas la voir. Donc, elles ont peur des examens gynéco. Elles ont peur, alors celles qui sont sous opiacés, elles ne focalisent sur le syndrome de sevrage du bébé. Elles ont très peur du syndrome de sevrage du bébé et elles le voient en miroir avec ce qu'elles ont vécu elles. Le développement de l'enfant, ce n'est pas du tout quelque chose qui est pensé. Mais le syndrome de sevrage, oui. C'est des dames qui ont souvent un manque de confiance en elles. Elles ont des difficultés dans les relations avec les autres, elles n'ont pas confiance. Elles ont du mal avec leur corps, elles ne se connaissent pas. Des fois, j'ai des dames, l'autre a fait plein de choses avec elles, mais elles ne peuvent pas faire quelque chose avec elles-mêmes. Elles ne peuvent pas se regarder, elles ne peuvent pas se toucher. Elles ont un besoin de maîtrise, donc il faut respecter ce qu'elles disent, il faut respecter leurs étapes. Rien faire sans elles, être transparente dans tout ce qu'on fait. Elles ont des difficultés de communication avec l'autre, et notamment dans l'expression de leurs émotions. Ça, c'est quelque chose qui revient hors grossesse, évidemment. Mais la grossesse, il y a une transparence psychique. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui émergent pendant la grossesse. On a une hypersensibilité, quelque chose qui revient aussi du passé et de ce qu'on a vécu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en face ? Globalement, côté environnement, en premier, remettre du lien social. Réduire toutes les conditions environnementales, mais vraiment remettre du lien social. Et après, je vais faire un cas clinique où vraiment, on n'aurait rien pu faire sans. Côté addiction, c'est en réduction des risques, en fait, on va essayer de réduire les pics en réduction des risques. C'est, par exemple, pour l'alcool, c'est plus compliqué d'avoir des alcoolisations aiguës que d'avoir une alcoolisation quotidienne, petite, faible. C'est le pic qui va être toxique. Et puis, commencer à débuter des suivis pendant la grossesse. En fait, pendant la grossesse, on va préparer l'après. Bon, côté psy, il y a l'histoire des traumatismes, il y a l'histoire des traités des pathologies, parce que les pathologies duelles, maintenant, on en parle beaucoup, mais c'est récent quand même. Hein. Parce que les psychiatres, pour les psychiatres, la plupart d'entre eux, ben, l'addicto, hein, c'est pas de la psychiatrie. Hein. Alors, côté grossesse, vraiment, les deux choses les plus importantes, c'est donc respecter le corps, faire attention au corps, et puis aider au suivi obstétrical. C'est là où on a besoin de vous, parce que suivi de grossesse, c'est tout ça. C'est première consultation, normalement, avant 11 semaines d'aménorrhée. Donc, 11 semaines, c'est le premier trimestre. Après, il y a tout un tas d'examens, tout un tas d'entretiens qui ont été faits pour préparer l'après, préparer le postnatal, préparer, réduire le maximum de risques pendant la grossesse pour le régime général, pour tout le monde. Ça représente, là, ce que je vous ai mis, qui est du régime général pour tout le monde, 19 rendez-vous. 19 rendez-vous en 9 mois. À partir de 24 semaines, 24 semaines, c'est 5 mois pleins, la Sécu prend en charge à 100% tous les examens. des fois, on recule l'échographie de 22-24, on la recule à 24 pour qu'elle soit prise en charge à 100%. C'est au réseau périnatal, on a fait des plaquettes comme ça avec tout le parcours grossesse. Là-bas, au bout, il y a l'accouchement. Là, il y a la consultation préconceptuelle, antéconceptuelle. On aimerait bien que ce soit plus fréquent. Et puis, voilà, il y a tout ça. Et donc, on va accompagner les gens dans ce parcours-là. Et le parcours, il ne s'arrête pas à l'accouchement parce que la périnale, j'aurais dû vous apporter les plaquettes. Elles sont téléchargeables sur le site du réseau. Et après, en postnatal, on a tout ça après. Et tout ce qui est en bas, c'est de l'accompagnement, c'est du suivi. Mais pour arriver à ça, il faut décider de se faire suivre. Pour arriver à se faire suivre, déjà, il faut déjà savoir qu'on est enceinte, premièrement. Donc il faut en avoir conscience. Je suis enceinte. Après, je suis enceinte, est-ce que j'ai le droit d'être enceinte? Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis enceinte autour de moi, aux professionnels, à ma famille, à l'entourage? Après, c'est pouvoir accéder à un service de soins. Je sais que je suis enceinte. Maintenant, qui je vais voir? Je suis à la rue, je prends des toxiques. Je suis enceinte, qui je vais voir? Donc il faut choisir un professionnel et il faut pouvoir y aller. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie pour pouvoir aller à un rendez-vous à l'heure. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a aussi des fois des difficultés pour arriver à faire ça. Pouvoir y aller quand on habite loin et qu'il n'y a pas de bus, c'est pas facile. Quand il faut prendre 3 bus ou 2 bus plus le tram, il faut avoir une stratégie pour pouvoir y aller. Après, une fois qu'on y est aux soins, il faut qu'en face, la réponse elle soit adaptée. Il faut que l'empathie elle soit là. Il faut pouvoir Juste quelques particularités concernant l'accouchement pour que vous, vous sachiez quand même, il peut y avoir une perception altérée de l'urgence et une prise de décision repoussée quand il y a des consos, quand il y a des addictions, même avec du cannabis. C'est le temps de se rendre compte que c'est le moment d'y aller. Et puis, il y a aussi une perturbation au niveau du seuil de douleur. Le seuil de douleur est abaissé. Il peut y avoir des... La douleur peut être perçue différemment. Ça peut être aussi beaucoup plus douloureux. Un accouchement ou... Et puis, provoquer des fois des envies de conso pour réduire un peu cette douleur. Donc, il faut être un peu vigilant au retard de diagnostic de début de travail, à l'évaluation de la douleur. Voilà. Bon, après... On donne les personnes qui sont sous méthadone, sous buprénorphine, on donne les traitements pendant le travail. On ne dit pas, bah non, on ne prend pas les médicaments. Maintenant, on fait boire les femmes pendant le travail, voire manger un peu, on devient humain dans les maternités. Concernant les accords d'experts concernant l'allaitement, c'était la commande aussi, un peu. Donc le tabac, bénéfice-risque, il vaut mieux. Quand on fume, il vaut mieux allaiter que pas allaiter. Et si possible, allaiter au moins 6 mois. L'enfant va mieux que si on n'allaite pas, même si on continue à fumer. L'alcool, il faut déconseiller en cas de consommation régulière poursuivie. Mais si c'est ponctuel, on peut attendre 2 heures. 2 heures pour un verre, pas pour une bouteille. Mais quand on boit trop, en fait, ça bloque, ça crée des engorgements. Quand on boit trop d'alcool, en fait, ça fait une montée de lait, sauf que le lait ne sort pas. Donc, on prévient les dames. Le cannabis, le CBD, donc, les recommandations, c'est plutôt soutenir l'abstinence. En cas de consommation importante, ce serait plutôt déconseillé, ça passe dans le lait, ça se concentre dans le lait. Après, c'est du bénéfice-risque. Mais on n'a rien en bénéfice-risque. Héroïne, tramadol, codéine, cocaïne, amphétamine, on est plutôt sur déconseiller l'allaitement, donc la coquille. Alors, qu'est-ce qui se passe en postnatal pour les mamans qui ont des troubles de l'usage? La plupart des femmes, elles arrêtent pendant la grossesse, ou elles réduisent beaucoup, mais il y en a beaucoup qui arrêtent complètement. Et c'est des dames, avant la grossesse, qui sont majoritairement pas dans des circuits de soins addictos. Et voir, elles ne sont pas du tout en demande de soins pour elles-mêmes. Elles viennent en demande de soins parce qu'elles sont enceintes ou elles arrêtent simplement quand elles sont enceintes. Donc, elles sont souvent encore dans le problème, c'est le produit, il n'y a plus de produit, il n'y a plus de problème. Donc, à l'accouchement, c'est tout va aller bien après. Mais par contre, l'après-accouchement, elles ont toujours l'impression qu'une fois que le bébé sera là, tout ira bien. Et bien, une fois qu'il y a un enfant, c'est là où tout est compliqué, tout est pire. Voilà, on ne dort plus, il y a quelqu'un d'autre à s'occuper. Voilà, au niveau émotionnel, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de flashbacks quand même de sa vie qui revient. Il peut y avoir des accouchements traumatiques aussi qui peuvent compliquer en plus ou réactiver des traumatismes anciens au niveau sexuel, par exemple. Et donc là, les dames qui sont dans des troubles de l'usage, souvent elles ne se rendent pas compte qu'elles coulent psychologiquement et qu'elles font une dépression. En fait, le seul truc qui va venir, c'est l'envie de consommer parce que c'est ça qui les a toujours aidées à tenir. Donc il y a des risques de reconso. Et si on n'a pas travaillé tout l'anténatal pour arriver à avoir un suivi et pour qu'elles apprennent à gérer leurs émotions, à parler, à s'exprimer, et à avoir un canevas de suivi, eh ben, ça va passer inaperçu. Il me reste combien de temps ? Hein ? Sur quoi travailler pour aider l'enfant après la naissance ? Alors, le couchage. Alors, quand on a un bébé qui pleure beaucoup, on a très envie de dormir avec lui, parce que c'est le seul moment où il arrête de pleurer. Mais on majore le risque de mort inopinée du nourrisson. Donc, c'est toujours compliqué dans cette période-là. Il faudrait éviter. Donc, beaucoup de portage la journée, dort dans son lit et pas faire la sieste avec lui sur le canapé, il n'y a pas pire. Et puis, essayer de travailler sur tout ce qui va altérer la préoccupation maternelle. Donc, tout le contexte environnemental, donc ce qu'on n'a pas fait pendant la grossesse, c'est difficile à rattraper après. Là, on va essayer d'avoir posé des bases avant. Et puis essayer d'éviter la reprise des consos, ou la reprise des consos, au moins qu'il y ait un espace de parole pour pouvoir en parler. Le bébé est là maintenant, quand il y a des conflits, quand il y a de la violence, le bébé est présent et un bébé témoin, il va aussi mal dans sa vie qu'un bébé qui est frappé lui-même. Donc, on a pas mal de travail autour de la réduction des risques et je trouve que de plus en plus, quand même, les professionnels de périnat sont sensibles à ça. C'est mine, c'est mort inopinée du nourrisson. Je vais laisser un gros mot. Pas de co-sleeping. Co-sleeping, c'est d'ailleurs abusif, c'est dormir avec le bébé. Alors, tout ce qui est se laver les mains avant, se laver les mains après, mettre quelque chose sur soi pour pas qu'il y ait de tabac. Je jette là. Tout ça, les mères sont très réceptives à ces propositions-là. Je pense que j'ai plus le... Oui, j'ai cassé le micro. Ah, vous pourriez réenregistrer là, parce que là j'ai fini la situation clinique. Bon, cannabis, donc conseil d'arrêt. Bon, ça je vous les laisserai de toute façon, conseil d'arrêt. Et puis prévenir quand même, attention, tous les ans il y a des enfants qui arrivent aux urgences qui ont avalé des boulettes de résine de cannabis. Tous les ans. C'est grave pour un enfant. Donc il faut prévenir, dès que l'enfant marche à quatre pattes, sous la table basse, il y a des boulettes. Sur l'alcool, donc on va travailler sur éviter l'ivresse, sur comment faire pour s'organiser dans le couple, pour faire attention à l'enfant. Alors pour les gens qui font la fête, il y en a un qui garde l'enfant, il y a l'autre qui part faire la fête. Donc on ne va pas tous les deux ensemble avec le bébé en couffin. Organiser le suivi du développement de l'enfant s'il y a des consommations pendant la grossesse. Et puis la plupart des dames qui arrêtent pendant la grossesse, l'allaitement, ça poursuit l'abstinence et ça les aide et elles sont tout à fait conscientes de ça. Et donc ce qu'on va travailler, c'est l'arrêt de l'allaitement. C'est qu'est-ce qui va se passer à l'arrêt de l'allaitement. Les opioïdes, les enfants, ils ont un plus de mort inopinée du nourrisson, mais donc on va faire beaucoup plus de portage de peau à peau dans les premiers mois de l'enfant, mais on essaye de faire ça pour tous les enfants maintenant. Et puis il y a beaucoup de suralimentation, c'est des enfants qui sont très hyperphagiques. Quand il y a les enfants en syndrome de sevrage, sont très hyperphagiques, ils boivent beaucoup, des grosses quantités, ils dépensent beaucoup d'énergie. On a maintenant moins de 10 enfants qu'on a besoin de traiter, mais on travaille sur du peau à peau pendant le séjour en mater. On peut faire 6-8 heures de peau à peau par jour en alternance avec le père et la mère. Et là, on est à moins de 10% d'enfants qui ont besoin d'être traités avec des enfants qui sont beaucoup plus sécures. Et du coup, un apprentissage aussi de ce qui va se passer après et de comment sécuriser l'enfant. Mais par contre, ils restent hyperphagiques et donc à la sortie de la maternité, le risque, c'est qu'ils mangent trop et aussi qu'on leur donne à manger dès qu'ils pleurent. Parce que la gestion des pleurs pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est difficile. Et c'est là-dessus qu'il va falloir les accompagner. C'est dans la gestion des pleurs et dans la non-réponse alimentaire systématique à toute pleure de l'enfant. Parce qu'on a beaucoup plus d'obésité chez les enfants quand il y a eu des problématiques, notamment d'addiction aux opiacés pendant la grossesse. Et la cocaïne, ça rend un peu... pas calme aux pleurs du bébé, on va dire. Donc quand même, il faut faire attention au risque de bébé secoué. Ça vous dit quelque chose, le bébé secoué, hein? C'est un bébé qui pleure beaucoup, on a toujours envie à un moment de lui dire « arrête de pleurer ». Mais le « arrête de pleurer » en le jetant dans le lit, ça ne marche pas. Ça cogne le cerveau contre la boîte crânienne. Donc on peut avoir des pensées, mais il faut arriver à poser le bébé et aller faire le tour du quartier. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, je suis finie. Je suis sur... donc ça, ce sont les fiches techniques et les référentiels du réseau périnatal. Si ça vous intéresse, après, vous pouvez s'inscrire au réseau périnatal. Plus il y a de profils du champ social, on a très peu de professionnels du champ social qui sont inscrits sur l'accès au site. Il y a des webinaires qu'on fait au réseau. et qui sont sur YouTube, il y a une chaîne YouTube, et il y a notamment un sur les violences conjugales en périnatalité, et il y en a un sur les troubles du spectre de l'acculturation fœtale. C'est que des webinaires qui durent une heure, avec un témoignage d'une mère. Et puis le DU, périnatalité et addiction, si vous voulez aller plus loin, Paris-Montpellier. Alors, je vous ai mis une petite diapo sur... Alors, moi, je suis coordination grossesse et addiction. Donc, ce qui a marqué en rouge, rattaché, moi, à l'EMSA et ma collègue à la Mater, donc Amélia, Sergi et moi, je vous ai mis le numéro de téléphone. On a un répondeur et on peut laisser un message. Ensuite, s'il n'y a pas d'addiction, il y a aussi des possibilités. Donc, on ne reçoit pas tout le monde. Donc en fait, il y a une coordination de grossesse et vulnérabilité avec un mail générique. Et on se répartit les situations, les patientes en fonction de ce qui est demandé. Et on rappelle les professionnels pour explorer un peu les choses avant. Et il y a une passe obstétrique. Alors c'est une passe gynéco-obstétrique. Sauf que là, on a été débordé, on a une saturation côté gynéco. Et le premier rendez-vous, donc c'est pour les personnes qui n'ont pas de droit. Donc on fait la consulte, les examens et les bilans s'en vient, on donne les médicaments. Donc le premier rendez-vous, c'est à coupler à une assistante sociale et une sage-femme. Il y en a deux actuellement, c'est Laure Gomestin ou Audrey Bertin. Et les assistantes sociales, c'est une des trois AS de la Mater. Ça dépend des fois. À l'UTTD, le vendredi pour l'instant, on faisait la consultation. Santé de la femme, qui est accessible aux personnes donc, qui sont en situation d'addiction et qui ont besoin, qui n'ont pas de suivi en ville. Hein, on n'est pas là pour remplacer la ville générale. Et puis, je vous ai mis quand même la clinique Saint-Roch, parce qu'il y a une sage-femme qui est référente pour les situations de vulnérabilité à Saint-Roch, qui s'appelle Adélaïde Gori, avec un mail pour la contacter. Je n'ai pas mis Clémentville, parce que la sage-femme de coordination de Clémentville prend sa retraite à la fin du mois, et pour l'instant, il n'y a personne qui a postulé pour la remplacer. Donc, si vous connaissez quelqu'un, donc je ne l'ai pas mis, parce que là, il va y avoir un trou. Voilà. Merci de votre attention.